Radio Cité Genève.
Le grand invité.
La Commission européenne a choisi, parmi 20 dossiers, un projet de l'UNIGE. Il s'agit du projet MIME, MIME pour Mobility and Inclusion in Multilingual Europe. Le professeur d'économie François Grain et la faculté de traduction et d'interprétation de l'UNIGE sont chargés de coordonner ce projet. Un projet qui consiste dans différents domaines à favoriser la mobilité des Européens dans un continent multilingue. Nous sommes avec François Grain, professeur d'économie à l'Université de Genève. Bonjour Monsieur Grain.
Bonjour.
Donc MIME est un projet de recherche de type FP7 qui est doté de 5 millions d'euros. Mais ça signifie quoi FP7?
Alors FP ça veut dire Framework Program, donc programme cadre de la Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation de la Commission Européenne. Et ceci est le 7e programme cadre. La Suisse en fait encore partie vu que le financement de ce programme et la participation de la Suisse avaient été négociés il y a longtemps. Et c'est le programme suivant qui s'appelle Horizon 2020. Pour lequel la participation suisse est actuellement, à l'heure où nous nous parlons, remise en cause. Mais le FP7, il n'y a pas de problème. Et nous avons effectivement reçu, enfin, nous recevons 5 millions d'euros pour réaliser ce projet parmi des projets qui touchent à toutes sortes de disciplines différentes.
Donc votre projet n'est pas touché par la votation du 9 février?
Il ne l'est pas, fort heureusement.
Il y aura une collaboration de chercheurs issus de 16 pays et dirigés par 25 chefs de groupe qui seront coordonnés par vous. Mais concrètement, à quoi va servir le projet MIME?
Alors, le but du projet, c'est au fond de réfléchir à la possibilité de réconcilier deux objectifs qu'on a dans les sociétés contemporaines, notamment au niveau européen. Deux objectifs qui sont l'un et l'autre parfaitement valables et valides, mais qui sont pas forcément faciles à mettre ensemble. L'un, c'est celui de favoriser la mobilité pour la prospérité européenne. C'est vrai qu'on souhaite avoir, entre autres, une grande mobilité des individus. La question de la mobilité en Suisse, on en parle du reste beaucoup ces temps-ci avec la question de la libre circulation. Et cette mobilité, ça concerne en particulier le marché du travail, la possibilité d'aller prendre un poste ici ou là, etc. Donc pour ceci, il faut certaines compétences linguistiques. Et ces compétences linguistiques, il faudrait pas qu'elles se résument à une seule langue dominante parce que ça détruirait au fond l'essence même du projet européen qui est un projet qui se veut tourner vers la diversité, c'est quand même une des choses qui fait la prospérité de l'Europe, c'est la capacité à mettre en valeur la diversité qui la caractérise. Donc d'un côté, on veut cette mobilité, mais en même temps, on veut préserver, développer, faire s'épanouir la diversité des langues et des cultures européennes, puisque ça contribue au bien-être, à la prospérité, à l'intérêt, à la qualité de vie, à l'innovation, etc. Donc on a deux objectifs qui sont l'un et l'autre importants, pas forcément faciles à réconcilier, et le but, c'est de voir comment on va les réconcilier.
Et le projet est articulé en 6 grands volets, juste en quelques mots. Pouvez-vous nous en donner des exemples? Comment vous allez procéder?
Alors, il y a des volets qui sont très politiques, dans le sens qu'on va s'intéresser dans une logique de comparaison aux différentes façons qu'ont différents pays, européens ou non européens, de gérer cette diversité. Vous voyez, la manière dont on gère la diversité des langues au Canada, au Mexique, en Australie, est à comparer avec ce qu'on peut faire en Suisse, en Finlande, au Luxembourg, etc. Donc déjà, on va regarder d'un côté les aspects politiques et institutionnels. On va regarder aussi les aspects qu'on appellerait sociaux, on pourrait dire sociétaux si vous voulez, c'est-à-dire regarder comment ça se passe, hein, comment est-ce que la diversité est gérée, comment est-ce qu'elle est vécue, comment est-ce qu'on peut en fait la faire fonctionner de manière harmonieuse, par exemple dans des métropoles contemporaines extrêmement diverses, notamment à cause de la mobilité et de la migration. On va regarder aussi certains aspects éducatifs. Hein, est-ce que l'enseignement par immersion nous fournit, par exemple, certaines clés? On va regarder des aspects qu'on appelle de médiation. C'est-à-dire qu'on va voir comment est-ce que on peut combiner au mieux différentes stratégies. Est-ce qu'on peut, par exemple, exploiter l'usage de lingue franche, c'est-à-dire des grandes langues de grande diffusion comme l'anglais, mais peut-être aussi d'autres langues. C'est des grandes langues comme l'allemand, le français, le russe ont un rôle à jouer. La liste du reste n'est pas close. Quelle est l'importance possible du développement des technologies de la langue là-dedans? Est-ce qu'on peut mieux exploiter ce qu'on appelle l'intercompréhension, à savoir le fait que vous et moi, en tant que francophones, avec très peu d'efforts, on pourrait acquérir pas forcément de quoi bien parler l'italien ou l'espagnol, mais le lire et le comprendre, ce qui permettrait de faire circuler de l'information à très bon marché sans avoir besoin de passer soit par une langue unique qu'on parle pas tous très bien, soit par des...
Vous parliez de langue l'anglais, là, non ?
Etc. Oui, ce serait l'anglais. Mais vous voyez, l'anglais, des fois, c'est quelque chose... Tout le monde sous-estime les difficultés de l'anglais. On s'imagine que tout le monde le sait. Alors que, mon Dieu, au niveau européen, c'est la langue maternelle de 14% des gens. Et puis, il y a un petit 10% en plus qui le parlent bien. Mais l'immense majorité des Européens ne le parlent pas ou le parlent mal. Et ça ne va pas changer demain. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser différentes stratégies au mieux ? Et puis sinon, il y a naturellement, dans notre recherche, il y a toutes les conséquences en termes de politique publique. Hein. Comment est-ce qu'on peut transposer ce qu'on aura trouvé dans les différents volets que je viens d'évoquer en direction de politique publique de gestion de la diversité. Alors ça peut toucher à des questions comme les normes concernant l'étiquetage des produits, les prescriptions de sécurité, l'harmonisation des objectifs d'enseignement, etc., etc.
Et Monsieur Grain, on connaît bien en Suisse le multilinguisme. Pensez-vous que c'est pour cette raison que le dossier de l'UNIGE a passé auprès de la Commission européenne ?
Alors, indirectement, oui. Vous voyez, ce que la Commission demandait explicitement, et plus explicitement que d'habitude, elle souhaitait, avant toute chose, un projet très, très interdisciplinaire. Et ça, je pense, l'argument principal qui nous a aidé au fond, à passer l'épaule, hein, c'est d'avoir un projet qui était très sincèrement, très profondément interdisciplinaire. Nous avons une dizaine de disciplines qui sont représentées dans l'équipe, dans le consortium de recherche, avec aucune discipline qui a une majorité absolue ou une domination sur les autres. Donc, on est vraiment là à part égale, dans une logique de coopération et de complémentarité. Je pense que ça, c'était le principal. Cela dit, en Suisse, c'est vrai que on a, depuis quelques années, pas mal de succès dans les projets européens concernant le multilinguisme. Du reste, des gens de mon équipe à Genève, ici, et moi-même, on a été impliqués dans des projets du programme cadre numéro 6, qui est le précédent. Hein. Avant le FP7, il y avait le FP6. Et je pense qu'en Suisse, on a une familiarité avec le multilinguisme au quotidien qui nous permet de l'aborder de manière très décontractée et, je pense, très, très, très positive. Je pense que ceci, indirectement, a contribué à constituer le substrat culturel ou psychologique avec lequel on a abordé ce concours.
Et donc le projet MIM, vous nous l'avez expliqué, peut aussi aider en fait les langues minoritaires peut-être menacées en Europe. Est-ce qu'on pourrait dire que le romanche, qui est parlé par 0,8% de la population suisse, peut être menacé ?
Alors, à mon avis, à l'évidence, il est menacé. Hein. C'est certain que la question des langues minoritaires, du reste, est un des sujets que nous abordons dans ce projet MIM, puisque c'est un projet qui ouvre sur des questions, comme on l'a dit, extrêmement variées. La protection et la promotion des langues minoritaires en fait partie. Et ces langues minoritaires sont souvent des langues menacées. C'est indubitablement le cas du romanche. Le romanche, du reste, c'est pas la langue qui est dans la situation la plus dangereuse en Europe, mais c'est quand même une situation qui est extrêmement, qu'on peut considérer effectivement comme périlleuse. Et je pense que là, il est tout à fait justifié de s'engager dans des politiques de soutien qui sont beaucoup plus actives. J'espère que le projet, fût-ce indirectement, pourra contribuer à définir le type de mesures qui peuvent être utiles dans un cas comme celui-là.
Et quelle est la langue minoritaire la plus menacée en Europe ?
Ben, ça, c'est absolument impossible à dire parce que vous avez des toutes petites langues. Surtout, vous voyez, comment est-ce que vous faites pour dire ceci est une langue ou bien ceci, non, c'est juste un dialecte d'une langue. À partir de quelle est l'unité que vous allez considérer comme langue pour après évaluer si elle est menacée ou non? Alors, je pourrais mentionner pas mal de langues dans le nord-est de l'Europe, hein, donc aux confins de la Finlande et de la Russie, par exemple. Vous avez beaucoup de langues dans cette région-là, y compris des toutes petites langues dans les pays baltes également, qui sont dans des situations, qu'est-ce qu'on pourrait dire, vestigiales. Hein, il n'en resterait que des vestiges. Donc, on ne peut pas dire, voyez, celle-ci est la plus menacée. Il existe hein, dans la recherche, il y a des travaux qui ont été faits qui prenaient en compte différents paramètres pour voir si, en termes de nombre de locuteurs, en termes de position institutionnelle, en termes de y a-t-il ou non des médias dans cette langue. Vous voyez, une question qui concerne les médias et les journalistes qui jouent un rôle extrêmement important. Alors, il y a des études qui tâchent de comparer cela, mais c'est difficile de dire, vous voyez, celle-ci, c'est la langue qui est dans la situation la plus difficile, parce que c'est vraiment le mélange de différents, la combinaison de différents paramètres qui intervient. Et une chose qu'on peut dire, puisqu'on est à la radio, c'est que un outil extrêmement utile et relativement sous-exploité encore pour la protection et la promotion des langues menacées, c'est la radio. En la radio, en tant que média relativement bon marché, extraordinairement flexible, et puis qui est très présente dans le quotidien des gens.
François Grain, professeur d'économie à l'UNIGE et coordinateur du projet MIM, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous, bonne journée.
Merci pareillement.
Radio Cité Genève, 92.2 FM.